Vous êtes sur le 106.8, Radio Grand Ciel, studio de Chartres. L'or des curieux, une émission écrite et présentée par Robert Giroux. À la prise de son, Simon Martin. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une émission qui reviendra sur les rapports parfois harmonieux, parfois conflictuels, d'un couple qui a défié le temps, l'a traversé et l'aura même quelquefois défini. Je vous en dis plus tout de suite après vous avoir toutes et tous dit mon bonjour. Ah, mais j'entends que mon jeune voisin du dessus a encore invité ses amis de l'orchestre. Écoutons un peu ce qui se chante là-haut.
Have you seen the well-to-do upon Lenox Avenue? On that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and colored collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem splits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Belle goes every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last 2 bits putting on the Ritz.
Boys, look at that man putting on that Ritz. You look at him, I can.
If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem splits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits, putting on that certain Ritz. That's where each and every Lulu Belle goes every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last 2 bits putting on the Ritz. Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last 2 bits putting on the Ritz.
Cette chanson de Fred Astaire, Putting on the Ritz, qui ouvrait l'émission à l'instant, est en soi un petit miracle, en ce qu'elle nous permet d'écouter d'abord une musique, un texte, une orchestration et bien sûr la superbe voix de Fred Astaire, mais un petit miracle aussi par le fait qu'elle nous permet d'écouter la danse. Les pas de Fred Astaire, ce tempo délié, libre, félin, souple à l'extrême, écouter la danse donc, lui rendre ainsi ce qu'elle permet à la musique, à savoir d'être rendue visible, de prendre corps, de devenir mouvement. Sans doute n'est-ce pas là une définition satisfaisante et suffisante de dire que la danse c'est la musique devenue un corps, mais demeure tout de même que ce corps qui ploie, qui ondule, qui se brise ou prend son envol suit à la perfection et incarne chaque courbe de la musique. J'avais été, jeune homme, contemporain des premiers travaux de Jerry Killian et Carol Armitage, deux chorégraphes dont le travail me plaisait et me touchait particulièrement. Étant plus maître de mon temps aujourd'hui, j'ai donc toute l'attitude pour me consacrer de nouveau, et peut-être un peu mieux que je ne l'avais fait par le passé récent, à la danse. Mais consacrer une émission de radio à la danse, vous voyez d'ici le problème ? Ça revient presque à suivre un balai les yeux fermés. La chose est juste impossible. Et c'est pour cela, précisément parce que c'est impossible, que j'ai choisi de tenter de faire cette émission d'aujourd'hui. émission qui devra son titre à Georges Balanchine, excusez du peu, puisque c'est Georges Balanchine lui-même qui avait dit, il y a quelque temps de cela, 5 minutes tout au plus, il faut regarder la musique et écouter la danse. Nous écouterons donc l'homme de l'art et tenterons d'écouter la danse. Je ne vous ferai pas aujourd'hui d'historique des rapports musique-danse, parce que je crois que l'histoire vit et se fait d'abord dans l'instant, et que c'est cette immédiateté qui doit d'abord nous intéresser, nous préoccuper. Ne tentons pas, qui que nous pensions être, d'écrire l'histoire à la place de l'historien. Alors, quelle musique joue-t-on aujourd'hui dans les spectacles de danse? Et peut-on encore, dans tous les cas, parler de musique, employer ce mot? Aujourd'hui, beaucoup parlent bande-son, semble évoquer plus le phénomène de l'audition, du perceptible, du signal, de la fréquence, que celui de l'écriture musicale proprement dite. Pourtant, la danse est importante à la musique, en ce qu'elle peut énoncer sur celle-ci des vues, des prolongements inattendus, enfouis, aller et revenir dans l'évolution. La danse, elle, n'a pas de contrat avec le cours du temps. Une danse baroque peut très bien parler d'aujourd'hui, une danse contemporaine nous projeter dans l'intemporel. Point n'est besoin alors de retourner là où les choses ont commencé, puisqu'en matière de danse, les choses connaissent une naissance chaotique la plupart du temps, comme un premier jet. Puis elles s'affinent par le déroulé du temps. Elles viennent, vont et se continuent, s'enrichissent, se transforment, radicalement quelquefois, dans un va-et-vient entre les données premières de leur ADN et la fantaisie du moment. Mais il est tout de même admis et recevable que ce que nous nommons danse contemporaine aujourd'hui commence avec les tout premiers temps du siècle passé. Le sacre du printemps, Igor Stravinsky. Sacre devenu fait d'armes de la danse. Souvenir des campagnes napoléoniennes, 1913. J'y étais, moi, monsieur. Non, là, j'exagère un tout petit peu. En fait, je n'étais même pas à l'état de rêve fou dans l'esprit de mon grand-père, de mon pépé adoré, qui était encore loin à l'époque de se douter de ce qui allait l'attendre en matière de petite progéniture. Le sacre du printemps qu'il faut écouter, réécouter, dont il faut s'imprégner en totalité, avant même que de considérer, aussi peu que ce soit, son pendant chorégraphié. Saisir le détail de cette instrumentation, de cette incroyable déflagration de couleurs, de cette profusion de tons, de timbres, cette musique est une explosion, une beauté sauvage, une plongée dans l'inconnu, un séisme, un éclat de la cruauté humaine, de sa monstruosité. C'est un peu le confessionnal de l'humanité, l'instant où elle comparaît et où elle doit dire le vrai sur elle-même. S'appuyant sur ce chef-d'œuvre hautement tellurique de Stravinsky, le monde de la danse, par le système dit de la réplique, bien connu des sismologues, s'infligera une secousse dont on parle encore dans les documentaires de télévision. Vous savez, les codes brisés, la révolution de ceci ou cela, bref, vous connaissez la chanson. Mais, prudence tout de même, attention, vrai chef-d'œuvre. Les premiers protagonistes du sacre ont effectivement porté la danse vers les hauteurs. Il faut simplement considérer qu'en danse, comme en toute autre matière, les choses ne changent pas instantanément. Et du changement amorcé au changement advenu, il faut toujours attendre quelques années. De longues années, attendre par exemple que vienne une Pina Bausch. Parce qu'un changement vrai, une évolution, n'est jamais le fait d'une ou d'un seul. Tout changement est un aboutissement, une résultante venue de loin, sous l'effet de mille et mille actions conjuguées. C'est le résultat de nombre d'expériences qui auront souvent nécessité des vies entières. Tout ceci est extrêmement méthodique, progressif, étagé, étalé dans le temps, raisonné. L'évolution n'est pas une lubie, pas une marotte de publiciste. Soyons francs, il m'est extrêmement difficile, de par la distance que le temps nous impose, de bien juger de la valeur réelle des premières versions dansées du sacre. Il en existe quelques films, mais ce sont des films qui ne sont même pas noirs et blancs, qui sont très gris, très flous, très flasques. Ça paraît très lointain et difficilement lisible. Ça me paraît même un peu indéchiffrable, pour tout vous dire. Pina Bausch en a donné une lecture très crue, basique, à ras de terre, à même la carcasse humaine. On y entend presque le bruit que font les os. La dernière version qu'elle en a dansée elle-même est, à mon sens, la plus prenante, la plus bouleversante. Sa peau portait les années. Elle était flétrie, desséchée, presque sans vie. Elle paraissait encore plus maigre et plus fragile, plus petite, plus cassante qu'elle n'était. Elle faisait penser à ces clichés pris dans les camps à la fin de la guerre. Des enfants, certains visages, ces corps flottant dans des haillons trois fois trop grands pour eux. Après elle, il y eut d'autres sacres encore, jusque tout récemment. Et sans doute y aura-t-il d'autres sacres encore, tous mémorables à leur façon. Mais Pina Bausch, par sa puissance d'évocation, aura en tout cas rendu la pleine justice à la musique d'Igor Stravinsky, l'aura véritablement dansée.
Thank you.
Certains danseurs aujourd'hui ont à cœur de concevoir eux-mêmes l'aspect sonore de leur danse. Je dis sonore ici et non musical parce qu'il n'est jamais fait référence explicite à la musique en tant que telle et à l'écriture musicale. La composition n'est pas évoquée ici, seulement une mise en son, en onde, en vibration, en atmosphère. Il s'agit donc avant tout d'un phénomène sonore. Une réalité que l'on définit d'abord par le fait qu'elle sera audible, perceptible et sensible. Les moins aimables parleront d'habillage sonore, mais je ne crois pas qu'il nous faille juger des choses ainsi. Le corps du danseur a ses demandes, ses recherches à mener, sa vie à faire, et il commande à la danse, et il lui obéit tout autant. Et s'il décide qu'une voix qui parle, que le son d'une machine, ou que le silence même, doit être son univers, alors il doit aller là où sa conviction et où son désir le mène. Aussi, dans cette vue, beaucoup font appel aux machines, à la technique, à l'ordinateur. Soyons clairs, ici, un ordinateur ne fera jamais un musicien de qui ne le sera jamais, quoi qu'il veuille. Il faut bien comprendre ici que le point de vue d'un tel danseur n'est pas de pallier à un manque ou de remplacer la musique ou le musicien par un substitut ou un subterfuge. Il y a là un vrai choix de l'électronique et une exploration voulue du phénomène sonore, du domaine des perceptions, de la sensation sonore, et pourquoi pas du numérique. De plus, ce phénomène, s'il n'est pas en soi un phénomène purement musical, découle pourtant totalement de la musique et tout autant de l'histoire de la danse. Puisque dans les années 1950, c'est Georges Balanchine, alors à la tête du Ballet de New York, qui passera commande auprès du compositeur Rémy Gassman de musique conçue et interprétée par l'électronique. Et comme vous allez l'entendre, ces musiques font plus qu'évoquer l'univers musical d'Oscar Zala, ce grand musicien allemand et également pionnier de la musique électronique en Europe, inventeur du trautonium, l'instrument que nous entendrons ici. Cette musique fut enregistrée et jouée dans les studios et sur les instruments d'Oscar Zala. Et si je ne me trompe pas, c'est Oscar Zala lui-même qui joue. Oscar Zala, auquel, certains s'en souviennent peut-être, j'avais, il y a quelques années de cela, consacré une émission entière. Nous écoutons à présent cet électronique ballet, composé par Rémy Gassman et qui avait été rêvé et initié par Georges Balanchine, et à la suite duquel l'électronique et la danse officialiseront leurs noces. Thank you. Martha Graham, matronyme nord-américain, signifiant danse. Elle occupe pour l'art chorégraphique le rang qu'occupait Platon pour la philosophie, William Shakespeare pour les lettres, Marie Curie pour les sciences. Martha Graham, nom essentiel, nom premier. Et Martha Graham était tout autant amoureuse de musique que de danse. Elle qui doit l'origine de sa gloire au ballet Appalachian Spring, qui prenait argument de la vie d'une communauté américaine première dans les monts Appalaches. Exhortation d'une vie simple, liée à la terre et aux éléments, exhortation d'une existence frugale et un peu serrée aux entournures, mais toute pleine d'une joie basique, irrépressible, la joie d'être, d'aimer, de chanter et de danser. Et la musique d'Aaron Copland évoquait le patrimoine musical de l'Amérique rurale. Évoquait par exemple l'intonation du fiddle, des rythmes, des danses traditionnelles, ce que l'on appelait le hoedown. Tout ceci est évoqué ici de la plus savante façon par la plume agile et foisonnante d'Aaron Copland. Copland, c'est un alliage extrêmement savant, de complexité, d'avant-gardisme et de pure lumière. Il sait vous faire tomber en extase devant une fête dans une plaine en Pennsylvanie, comme vous entraîner jusqu'à presque vous perdre dans les sinuosités et les harmonies dissonantes d'un piano ou d'un orchestre saisi de vertiges avant-gardistes. Il est l'extatique et le savant réunis en un seul. La dualité faite musique, et de ce double état, il tire une cohérence et une rigueur d'écriture qui ont peu d'égal dans la musique classique américaine. De Copland, je crois qu'il tenait la position parfaite dans le temps. Il entretenait une sorte de vue avancée des choses, regardait devant lui et regardait loin, mais n'avait pas pour autant abdiqué toute mémoire. Il n'était pas irrassiblement rivé sur l'aujourd'hui même et l'heure qu'il est. Cette obsession de l'instant même, qui me paraît cacher en fait une amnésie inversée, comme à se redire et à se redire encore l'instant pour s'en convaincre, de peur de l'avoir déjà oublié. L'une des plus grandes leçons d'Aaron Copland, je pense, c'est de nous dire que la musique a d'abord besoin d'espace. Nous écoutons à présent un extrait de cet Appalachian Spring d'Aaron Copland, en nous souvenant de Martha Graham. The New York Virtuosi sont ici emmenés par Kenneth Klein. Thank you. depuis le ballet russe jusqu'à Balanchine ou Martha Graham, le ou la chorégraphe est devenu le grand ordonnateur, véritable matrice de la chose dansée, celle ou celui qui esquisse, qui croque, qui dessine et de la page duquel sortira un faune, un oiseau de feu, une créature envoûtante ou terrifiante, à laquelle il apprendra, pas après pas, figure après figure, comment danser la danse, de la plus belle et mémorable façon qui se puisse faire. Chorégraphe, comme un maître des supplices, le dispensateur des souffrances, il est celui ou celle qui ordonne l'impossible en espérant le miracle. À parts égales, le salaud parfait est celui qui nous ouvre les portes du ciel. La dureté ouverte et assumée du monde de la danse a son effigie avec le personnage du ou de la chorégraphe. La danseuse ou le danseur sont une effigie de la beauté de la danse. Il faut porter au crédit de Merce Cunningham d'avoir non pas chamboulé tout ceci, ça aurait été un peu le détruire, mais d'en avoir contourné, puis enrichi la compréhension, d'avoir considéré la figure du chorégraphe, de lui avoir donné de la patience, de la souplesse, de la fantaisie, et oui, tout arrive, et même une âme, de l'imagination, de la générosité, de la compréhension des êtres, et surtout une définition de plus de prospective que de conservatisme. Merce Cunningham me paraît avant tout un être doué d'infiniment de curiosité, curiosité sur les êtres, sur les civilisations, les philosophies, la musique. Parlant de musique, il aura l'immense mérite de générer des œuvres nouvelles. À son actif, il a donc, parallèlement à la danse, d'avoir initié nombre d'œuvres musicales. D'avoir donc su entraîner la musique dans son périple vers la nouveauté et la plus haute ambition artistique. De John Cage, dont il sera une sorte d'ange bienveillant, à Morton Feldman, David Tudor et bien d'autres, il cherchera sans cesse à conforter l'union de la musique avec la danse, les unissant souvent dans le même questionnement quant à leur structure, à chacun des éléments qui les constituent. John Cage y trouvera le réceptacle parfait à ses conceptions musicales et philosophiques. Ils élaboreront tous deux un véritable langage, fait d'autant de chorégraphie que de musique. Pas un moyen terme entre les deux, non, plutôt un unisson parfait, mais reposant sur une parfaite dissemblance, dissymétrie, une totale indépendance des deux sources. Musique libre, danse libre. Écoutons, si vous le voulez bien, quelques-unes de ses œuvres sans nombre que nous devons à Merce Cunningham. Ce sera John Cage, bien entendu, mais aussi Gavin Bryars et le moins connu Bo Nilsson. Nous pourrons, au passage, relever que, contrairement au cinéma, on peut parfaitement dissocier la musique de la danse, écouter l'une sans avoir vision de l'autre. Il en reste au sortir plus de musique qu'avec le cinéma, car le cinéma tronque, morcelle, mutile la musique. Le cinéma n'a jamais réellement traité de la musique, sauf en de très très rares occasions qui furent des exceptions, telles par exemple le traitement que fit François Truffaut de la musique de M. Jaubert dans son film « La chambre verte ». Ou bien le film « Ran » de Akira Kurosawa et le traitement opératique presque qu'il fit de la musique de Toru Takemitsu. Film et musique, « Ran » et Takemitsu, auxquels j'ai consacré par le passé une émission entière. Mais musicalement, Merce Cunningham n'est pas le plus simple qui soit à faire entendre. Il sonorise beaucoup la musique, la rend à l'atmosphère et au moment, tablant souvent sur le simple exposé d'une donnée, à savoir une note seule ou une note tenue, qu'il travaillera alors comme une donnée scientifique pour la propager au geste. Tant les chorégraphes que les musiciens américains en général me paraissent plus scientifiques que nous le sommes ici en Europe. Simple constatation de ma part, rien de qualitatif, rien de plus. En ce qui me concerne, je suis ici européen autant qu'on peut l'être, c'est-à-dire jusqu'au trognon. Pas un sou d'esprit scientifique. Je suis tout dévoué à la sensation, aux impressions soleil levant, si vous voyez ce que je veux dire. Merce Cunningham, lui, a par exemple fait créer un logiciel d'ordinateur pour pouvoir faire déterminer des chorégraphies par l'ordinateur, c'est-à-dire ne plus imposer à ses chorégraphies sa volonté, ce qu'il peut avoir de déterminé. Et puis à tout cela, il saura infuser de l'imprévu en plus, en jouant par exemple la distribution des rôles au dé, ou en passant d'un rôle à l'autre en cours de ballet. Il y avait également ce petit détail, chaque danseur découvrait la musique au moment de rentrer en scène. Il ne l'écoutait jamais avant. Il a aussi mis à contribution l'ordinateur, et là c'est chose plus sérieuse, pour explorer la gestique du danseur, pour en tirer le maximum, bien entendu, mais aussi pour moins maltraiter le corps des danseurs, les exposer moins aux tensions extrêmes, aux blessures, à tout ce qui pourrait condamner leur pratique de l'art. Allez, nous écoutons un patchwork de quelques musiques qui eurent destin lié avec l'œuvre de Merce Cunningham. Nous nous quittons donc en musique, et je vous donne rendez-vous en 15 pour le second volet de cette émission autour de la danse, émission que je reconduirai une fois l'an. Le deuxième volet sera, lui, beaucoup plus européen. À très bientôt. Prenez bien soin de vous et des vôtres. D'ici là, au plaisir.
Thank you.